Alors, Donald Trump n'a toujours pas commencé cette allocution, donc, qui devait commencer à 13h30, dès, évidemment, qu'on saura ce qu'il a l'intention de dire, on vous le communiquera. Loïc Tassé, spécialiste des questions internationales, bonjour.
Oui, bonjour Bernard. Alors, pense savoir quand même ce qu'il va dire. Hein. On pense que les démocrates et les républicains se sont entendus pour ouvrir pendant 3 semaines le gouvernement, le temps de continuer les négociations. Donc, si tu veux, c'est vraiment une avancée, une belle avancée, et ça commence à poser des problèmes. Tu as vu dans les nouvelles aussi que les aéroports commencent à être engorgés.
On vient d'en parler, Loïc. On vient tout juste de parler de ça.
Ah ben, c'est parfait.
Eh oui, absolument. On a fait le point là-dessus. Alors, dès qu'on saura, on vous communiquera, mais pendant ce temps, ces problèmes avec la justice sont pas réglés, lui-là.
Ah non. Et puis, c'est surtout que Roger Stone, qui se dit un grand ami de Donald Trump, vient d'être arrêté ce matin. Il y avait des caméras, figure-toi, de CNN qui étaient là. Et un peu autour de 6h du matin, en fait, ils sont arrivés. On les voit, hein, ils sont des dizaines. Ils arrivent à sa maison, il fait encore nuit. Et il frappe à sa porte, il se réveille, il ouvre la porte. Et il se fait passer les menottes au poing, littéralement. Alors, on l'accuse, en fait, de subornation de témoins, d'obstruction et de mensonge au Congrès. Plus précisément, on l'accuse d'avoir volé des documents qui pouvaient nuire à Hillary Clinton. Et ça, il l'aurait fait en coordination avec l'équipe de Donald Trump. Il semble même que ce soit Donald Trump qui ait demandé à M. Roger Stone d'aller chercher des documents. On n'en est pas sûr, mais disons que on se rapproche beaucoup, beaucoup de ça. En tout cas, Donald Trump aurait demandé à un de ses employés de communiquer avec Stone pour savoir quand d'autres documents seraient publiés après que WikiLeaks ait publié un certain nombre de documents qui venaient de la campagne d'Hillary Clinton.
Oui. Ouais, ben ça, Stone, pour ceux qui ne le replacent pas, là, à un moment donné, Netflix avait mis en ligne un documentaire qui portait sur Stone. Je ne sais pas s'il est encore disponible, là, mais c'est un personnage clé, hein. Il a été très, 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 très proche de Trump. Alors, ça s'ajoute à la longue brochette de collaborateurs de Trump qui se sont vus passer des menottes, là.
Oui, oui, exactement. Et ça devient toujours de plus en plus précis. Hein. On dirait que M. Mueller, au compte-goutte, distille les résultats de son enquête dans l'opinion publique. Et c'est sûr qu'à chaque fois, on se rapproche un peu plus de Donald Trump. Roger Stone prétend que c'est lui qui a amené Donald Trump à se présenter comme candidat.
Oui, exact. C'est
quelqu'un qui a conseillé Donald Trump pendant toute la campagne. Et comme tu dis, c'est un personnage très flamboyant. C'est un personnage qui est très controversé. Mais on se rapproche de Trump et c'est ça qui est important.
Parlons du Venezuela parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on est au bord de la guerre civile là-bas. Et puis évidemment, il y a toutes sortes il y a un grand jeu international là, qui va s'opérer autour de cette quasi-guerre civile au Venezuela avec certains qui prennent position pour Maduro, d'autres pays comme les États-Unis, le Canada qui prennent position pour le président de l'Assemblée nationale. Où est-ce qu'on en est?
On en est au moment où Nicolas Maduro a déclaré qu'un coup d'État était en cours contre lui. Et en même temps, celui qui se prétend le véritable président, donc le président du Parlement, a annoncé que lui allait déclarer bientôt de nouvelles mesures. Mais ce qui est très important, c'est qu'il a ouvert la porte à une éventuelle amnistie de Maduro, ce qui laisserait penser qu'il y aurait peut-être des négociations entre les deux camps à l'intérieur même du Venezuela en ce moment. En tout cas, on l'espère. Mais au niveau international, la situation se crispe de plus en plus. L'Allemagne a déclaré qu'elle était prête à reconnaître le président du Parlement, donc Juan Guaido, comme président légitime, si des élections libres ne pouvaient pas être bientôt organisées. Donc,
Décode-nous ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là, au-delà des mots, là? C'est quoi, là?
Ce que ça veut dire, c'est que l'Europe, pour le moment, est pas prête à encore faire le pas du côté du Canada, du côté des États-Unis, et à ne pas reconnaître la présidence actuelle. Et ce qu'elle dit, c'est, écoutez, si, en fait, elle donne une chance aux négociations, j'ai l'impression, entre les deux camps. Cette hypothèse que je te soumettais tout à l'heure, je disais, j'ai l'impression qu'il y a des négociations à l'intérieur même du Venezuela qui se produisent en ce moment.
Mais c'est l'armée. Et donc, à ce moment-là, c'est l'armée. Allons à l'essentiel.
Mais l'armée...
Hein, le rôle de l'armée va être absolument déterminant, là.
Oui. Mais comme je t'ai dit hier, l'armée contrôle une large part du gouvernement, une large part de l'économie.
Oui.
Écoute, Maduro a nommé 2000 généraux.
Imagine 2000! Toi.
Imagine! Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que ces 2000 généraux vont continuer à obéir à Maduro? Ils ont aussi des gens de la famille, ils se promènent dans leur pays, ces gens-là, et ils voient bien que leur pays va pas du tout bien, et ça se pourrait que l'armée se retourne contre Maduro, qui, lui, n'a pas de racines profondes dans l'armée. C'est pas un militaire de carrière, c'est un chauffeur d'autobus.
Un militaire de carrière comme l'était Chavez, justement, là, qui était un béret rouge. OK, il me reste seulement quelques... Alors, c'est confirmé, là, ton hypothèse est confirmée, là, elle circulait, selon le Washington Times, Washington Post, encore, Washington Post, voilà. C'est effectivement un accord, donc, qui est intervenu entre les leaders du Congrès et Trump pour rouvrir temporairement, donc, le gouvernement, mais il n'y a pas de financement pour le mur prévu à cette entente. Donc, le Washington Post vient de confirmer, selon des sources à eux.
Et Trump va pouvoir faire son adresse à la nation, probablement.
Ah, ça, je pense bien que ça fait partie de l'entente. Tu as bien
raison de le noter.
De le noter. OK. Rapidement, l'Arabie Saoudite qui serait en train de construire en train de construire une usine qui pourrait fabriquer des missiles balistiques?
Exact. C'est ce que nous apprend le Washington Post. Et c'est très possible. En fait, c'est dans une ville qui se trouve à 200 kilomètres au sud-ouest de Riyad. On a vu des images satellites qui ont été validées par plusieurs experts. Évidemment, ni l'Arabie Saoudite ne commente là-dessus, ni le Pentagone. Mais on sait que l'Arabie Saoudite a déclaré qu'elle se doterait très, très rapidement d'une bombe nucléaire si l'Iran le faisait.
Oui.
Et donc, et en plus... Il y a des rumeurs qui circulent à l'effet que l'Arabie Saoudite, en fait, aurait déjà des missiles balistiques qu'elle aurait achetés à la Chine. Donc, ça sent très mauvais, si tu veux, dans cette région-là. Il semble bel et bien que l'Arabie Saoudite soit en plein effort d'armement. Je te rappelle que c'est une des armées les plus riches au monde. Il y en a qui la placent au sixième rang. Ce serait pas du tout étonnant, étant donné ce qui s'est passé ces derniers mois, étant donné le nouveau prince qui est très belliqueux, qu'en effet l'Arabie Saoudite fasse ça.
Et parle-nous en terminant de ces révélations choc au procès de El Chapo, le grand narcotrafiquant mexicain qui subit son procès présentement aux États-Unis.
C'est un de ces hommes de main qui a raconté ça, et ça brise complètement l'image romantique. Tu sais que ces mafieux veulent souvent donnés d'eux-mêmes, on se rend compte que la bande d'El Chapo, et lui-même El Chapo, torturait et questionnait des membres des groupes rivaux. Il les torturait avec des fers à repasser, des allumes-cigares. Et je m'excuse, là, je vais donner des détails qui sont un peu horribles, mais El Chapo lui-même aurait frappé des gens qui étaient attachés jusqu'à ce qu'ils soient complètement démantibulés avec une branche et puis un fusil d'assaut. Et puis ensuite, il les aurait tués à bout portant et puis il aurait fait brûler leur corps.
Ce qu'on voit dans les histoires, dans les téléséries qui portent sur les narcos, là, c'est extrêmement violent. C'est le reflet assez juste de la réalité, hein?
Oui, c'est ça. Exactement. On n'est pas dans le parrain, là, tu sais, avec les beaux gestes, etc. Non. C'est pas drôle ce qui se passe. Et si tu veux, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'El Chapo est aux États-Unis. Il n'est pas poursuivi pour homicide, hein, mais pour trafic. Il risque la prison à perpétuité. Faudra voir ce qui va arriver avec ce genre de témoignage qui a été porté contre lui.
Mais on s'entend qu'il y a beaucoup, beaucoup de ses anciens collaborateurs qui ont tourné leur veste et qui collaborent avec la justice. Donc, on verra bien s'il sera effectivement condamné. Je te souhaite un bon week-end.
Toi aussi, à lundi.
À lundi. Et c'est Fabrice de Pierrebourg, hein, qui doit s'amener après la pause pour nous parler donc de cette affaire-là de sécurité nationale, un jeune mineur arrêté par la GRC. On va en savoir plus tout de suite après la pause.